France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Bonsoir, je suis Susanna Malki, finlandaise. Je suis née à Helsinki il y a 50 ans et je suis chef d'orchestre.
Bonsoir, Susanna Malki.
Bonsoir.
Auskatavata.
Auskatavata.
Merci beaucoup de nous accorder ce temps. Vous êtes chef d'orchestre, on l'entendait, violoncelliste aussi, vous ne nous l'avez pas dit, mais peut-être avant tout, peut-être sans doute, surtout, musicienne.
Oui.
La France a fait votre connaissance à travers l'aventure que vous avez eue pendant plusieurs années avec l'ensemble intercontemporain. Vous en étiez la directrice musicale entre 2006 et 2013. Et puis, ça a été ensuite des premiers pas à l'Opéra de Paris, où nous nous rencontrons dans ce magnifique salon qui surplombe Paris, Siddhartha de Bruno Mantovani. Ensuite, bien d'autres productions. Et à la fin de l'hiver, vous serez d'ailleurs au Palais Garnier, également Opéra de Paris, pour Yvonne, princesse de Bourgogne, de Philippe Bosmans. Alors, depuis, on pourrait dire que votre carrière n'a plus de frontières, qu'elles soient des frontières géographiques, mais aussi des frontières entre les répertoires, entre les styles et les époques. De Haydn au tout fraîchement écrit, rien ne vous échappe. Et vous dirigez aux quatre coins du monde une vie de voyage, une maison, on l'entendait, qui est maintenant à Paris, c'est ça ?
Oui, oui, depuis 2007, c'est quand je me suis installée à Paris. En fait, j'avais une belle excuse de m'installer à Paris avec ce travail, avec l'ensemble intercontemporain. Et je suis restée parce que je me sentais bien à Paris.
Et pourquoi une belle excuse ?
Non, oui, c'était une petite blague. En fait, j'ai grandi à Helsinki et j'ai fait beaucoup d'études dans les pays différents. Et je suis revenue à Helsinki et à la fin de mes études, la vie était déjà assez mobile, disons. Je voyageais beaucoup et je sentais aussi que peut-être la vie dans une grande ville pourrait me plaire. Et c'était bien le cas à Paris. Les deux villes ne sont pas tout à fait comparables. Bien sûr, c'est ma ville natale, Helsinki, et la langue, et mes amis, et ma famille, etc. Mais Paris a tellement de couches d'histoire, et c'est dans le centre d'Europe pour le voyage. J'avais pas vraiment besoin d'une excuse, bien sûr, mais ouais, c'était peut-être le coup final.
De cet Helsinki de votre enfance, c'est aussi un certain rapport à la nature, à la lumière. Je me dis toujours que quand on quitte ces pays du Nord, on a sans doute un rapport à la lumière qui est particulier, Susanna Malki.
Tout à fait, la lumière est très particulière et aussi en fait les différences des saisons, ce qui est très frappant surtout en printemps et en automne, parce que le printemps est toujours comme un miracle dans le Nord, parce qu'on n'y croit pas. Et après une attente extrêmement longue, finalement, ça arrive et c'est comme une explosion. Et l'été est intense, mais plutôt court. Et la lumière, en fait, à propos de la lumière, je pense que c'est ce qui définit beaucoup la mentalité des gens. C'est aussi le fait que pendant l'hiver, il y a peu de lumière. Donc, c'est pas seulement une question de lumière du jour, mais aussi les lumières différentes de chaque saison. Et presque pas de nuit en été et presque pas de jour en hiver. Les gens ont été formés par le paysage. Et bien sûr, moi je suis née à Helsinki, donc c'est une ville avec les ports et des bateaux et tout ça. les forêts et la mer.
Et ça, c'est quelque chose dont vous avez beaucoup profité quand vous étiez enfant, de vous promener dans ce pays des mille lacs?
Oui, absolument. On jouait dans la nature, on sortait tout de suite après l'école, ou comme enfant, en fait, on apprenait beaucoup de choses, où on allait. Ma famille vivait près de la mer, donc c'était très sympa. On pourrait juste prendre le vélo et aller se baigner. Et c'est un rapport très direct avec la nature. Et aussi, vous avez entendu parler, tout le monde, des cabanons. Et on se cache, en fait, dès qu'on peut, on quitte la ville et on s'installe quelque part au milieu de nulle part.
Vous parliez de ce caractère finlandais qu'on peut dire peut-être d'un certain côté peut-être discret, peut-être réservé et en même temps tellement fantaisiste, non ? C'est vraiment une terre de contraste, on a le sentiment.
Oui, c'est intéressant ce que vous dites. En fait, je pense que la fantaisie se nourrit aussi quand on est... dans une petite bulle ou dans sa discrétion. En fait, moi je trouve souvent que les gens... plus innovatifs ou peut-être plus créatifs sont ceux qui sont ceux qui protègent son espace privé et qui laissent de l'espace pour la fantaisie, justement. Et le rapport avec la nature, ça joue un rôle important, je pense, parce que ça fait les pensées s'envolent librement quand vous vous promenez dans la nature. En fait, on prend beaucoup d'impressions et on n'est pas limité par les choses. On est complètement présent dans le moment quand on est dans la nature. Je pense que ça, c'est le message le plus fort.
Ça, c'est quelque chose que vous avez dans vos moments à vous, le fait de marcher, par exemple.
Oui, j'ai fait des randonnées dans le nord et aussi les Alpes, etc. Et les paysages me fascinent, mais aussi la marche. Oui, c'est un exercice qui est très naturel, parce que le corps est fait pour. J'avais même un ostéopathe qui disait qu'il n'y a que les enfants et les chiens qui courent. Donc les adultes marchent et c'est bien pour le corps. Bon, ça c'est une blague aussi. Mais oui, il y a la réflexion. Et j'ai même lu quelque part que le cerveau fonctionne mieux quand on bouge, en fait, quand le corps est en mouvement. Le cerveau est utilisé plus globalement, je ne sais pas, il y a peut-être les
synapses.
Oui, les synapses qui se connectent mieux. Mais la marche, c'est très bien. Et oui, la marche pour moi, en fait, les promenades, ce sont les moments quand les choses se mettent en place. Un peu comme... voilà, je cherche le vocabulaire.
Quelque chose qui se décante.
Oui, exactement, c'est ça. Et finalement, tout est clair et calme et à sa place.
Quand vous étiez donc dans cette petite enfance, Susanna Melki, le début des années 70, les années 70, j'ai lu qu'il y avait à ce moment-là en Finlande une forme d'utopie aussi dans l'éducation, une utopie pour la culture, pour l'ouverture. Ça, c'est quelque chose dont vous avez le sentiment d'avoir directement profité ?
Oui, parce que, par exemple, dans le banlieue où habitaient mes parents, où notre famille habitait là, il y avait aussi les premières classes de musique. La musique, pour moi, aurait été présente de toute façon, parce que mes parents sont des mélomanes, et tous les enfants jouaient, mes frères sont un peu plus âgés que moi, mais on jouait tous, donc c'était pas forcément un choix de l'État, c'est-à-dire non, c'était un choix. Moi, j'étais intéressée à la musique, mais bien sûr, c'était sympa d'avoir cette classe spécifique pour la musique. Et j'ai tout de suite rencontré des amis qui avaient le même intérêt. Il y avait un orchestre, le chœur, et oui, une utopie culturelle. En fait, les portes étaient toutes ouvertes pour tout le monde. On voulait trouver le talent partout, et les résultats sont indéniables.
Cette famille, vous êtes la petite dernière, alors vous parlez de frères.
Oui, j'ai deux grands frères. Il y a 3 ans d'écart entre nous, mais eux, ils n'ont pas choisi la musique pour leur métier, mais on jouait tous.
Et vos parents, alors, étaient mélomanes, ils chantaient, jouaient d'un instrument, qu'est-ce qu'ils faisaient comme musique, je veux dire, la musique qui se passait live à la maison, quelle était-elle?
Oui, bon, il y avait beaucoup de chants chez nous, ma mère avait pris des cours de piano, et mon père chantait dans un chœur d'hommes. En fait, donc déjà ce répertoire, en fait, je saute un peu vers l'avant, mais souvent quand on me demande mon rapport à Sibelius, notre grand compositeur, en fait, déjà avant de savoir que c'était Sibelius, je l'entendais parce que dans le répertoire de chœur d'hommes, il chantait beaucoup de chansons incroyables. Et on entendait les concerts de Noël toujours avec ce chœur, et bien sûr. Oui, et le chant aussi, dans les rencontres de la grande famille. En fait, la famille de mon père vient de la Carélie, donc il y avait toujours beaucoup de chants dans toutes les réunions familiales, etc. Donc la musique était présente, oui. Moi, probablement comme enfant, je croyais que dans toutes les familles, on fait de la musique. C'était un peu ça.
Les grands entretiens de Susanna Melki, France Musique.
Qu'est-ce qu'ils faisaient vos parents ou qu'est-ce qu'ils font encore vos parents?
Bon, ils sont tous les deux à la retraite maintenant, mais ma mère a été prof des arts plastiques, comment dire, le dessin, ça s'appelait à l'époque, peut-être vous avez un mot équivalent, les arts. Et donc visuel. Et mon père a été scientifique, en fait la recherche marine, je pense que c'est le mot correct en français. Donc il était aussi dans une expédition vers Antarctica et les recherches, les courants marins. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Et il est à la retraite maintenant, mais il écrit toujours les discours et participe aux rencontres. Donc, j'imagine que les scientifiques sont comme les artistes, en fait. On ne cesse pas l'être.
Mais, ça s'arrête jamais.
Oui, c'est ça. Oui. Et ma mère, maintenant, elle est très contente parce qu'elle peut peindre toute la journée.
Donc du coup, un rapport là aussi à des parents qui ont des métiers qui sans doute sont proches d'une passion, d'une certaine façon. Ce ne sont pas des métiers, j'allais dire, pris au hasard quand on est chercheur, oui. Océanographe ou je ne sais quoi.
Oui, oui, c'est vrai. Tout à fait. Oui, et je pense qu'il y avait aussi, en plus de la musique, une appréciation des choses, justement, en fait, la beauté dans le quotidien, ou bien mon père est un grand lecteur, et il a beaucoup de livres à la maison, chez eux, et bien sûr, ce rapport, une sorte de, oui, je dirais aussi, une sorte de curiosité, et respect des métiers aussi, peut-être. C'est pas artisanal, mais il y a un rapport avec un travail à long terme, en fait. Une évolution des choses, et on construit des choses peu à peu. Il y a peut-être ça, en moi, qui vient de là.
Dès l'enfance, vous aviez cette curiosité comme une force vitale, d'une certaine façon.
Oui, oui, probablement. Je pense que la musique était très rapidement quelque chose qui était à moi. En fait, on avait tous les enfants. Je pense que souvent dans les familles, chacun trouve son rôle. Et par exemple, moi, peut-être, j'aurais pu bien dessiner, mais mon frère était beaucoup meilleur, donc je me suis dit non, c'est pas moi, je fais pas ça. Et ou bien à l'école, j'étais pas aussi fort en maths que mon frère aîné, donc ça m'intéressait pas trop. Par contre, dans la musique, j'étais plutôt forte. Et je sais même que mon frère n'aimait pas trop que je jouais toutes les choses qu'il devait le travail à lui. Moi, je jouais tout à l'oreille. Et il était pas très content. Donc on avait chacun son intérêt et une sorte de curiosité. Disons que avec la musique, j'ai eu un côté de ma personnalité qui a été différent par rapport à toutes les autres activités. Je le vois maintenant comme adulte. J'avais beaucoup d'insécurité dans beaucoup de choses, mais dans la musique, pas trop, en fait. Et donc, j'avais pas beaucoup de connaissances, mais j'avais une sorte d'instinct. J'avais ma propre idée, sans la connaître encore. C'est un peu difficile à décrire, mais j'espère que ça a du sens pour vous. Il y avait une curiosité, je dirais presque un fin de savoir-faire aussi. J'ai même, quand j'étais adolescente, je changeais mon prof de violoncelle parce que je sentais pas que le prof me donnait ce que je voulais apprendre. Et donc il y avait...
Une impatience aussi.
Oui, mais aussi une curiosité, en fait. Je savais ce que je voulais savoir, et je savais qu'il fallait le savoir, mais j'avais pas les réponses. Donc oui, peut-être une impatience,
vous pouvez le dire. En tout cas, une forme de détermination aussi.
Détermination, oui. Et c'est intéressant, en fait, que Oui, je pense que c'était pas toujours facile pour mes profs à le déterminer, à le voir, parce que j'avais un côté timide en même temps. Donc la détermination était bien cachée à l'intérieur, mais elle était bien là.
Et vos parents, ils savaient bien s'y prendre avec la déterminée timide que vous étiez. Ils ont bien compris l'animal à qui ils avaient affaire.
Non, je crois pas. Je pense qu'ils ont compris plus tard, mais quand j'étais enfant, pas forcément tout de suite, mais ils ont toujours soutenu mes activités musicales, absolument. Et j'ai eu un bel instrument quand je n'étais qu'un adolescent. Ils ont acheté un beau piano quand je prenais mes cours parce que j'avais très, très envie de travailler. Donc là, ils m'ont soutenu, absolument.
En avril dernier, Susanna Melki dirigeait l'Orchestre Symphonique de Vienne dans Ainsi parlait Zarathoustra de Strauss. Et c'est ainsi que se referme ce premier épisode des grands entretiens avec la chef finlandaise. Réalisation, Marie Groux. Prise de son, Martin Troadec. Mixage, Olivier Dupré. Attaché de production, Flora Sternadel. Demain, à la même heure, deuxième épisode de ce portrait. Et puis pour les impatients, notez que dès ce soir, toute la série est disponible à l'écoute. Alors auditeurs, impatients, ruez-vous sur le podcast de francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.